LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Mais de quoi vivent les vieux, en somme? Ils vivent de pommes de terre, de carottes, de navets, de choux-fleurs, de vin, de bière, etc.
Donc de produits en vente libre.
En vente libre, exactement.
Paul-Louis, que demande-t-on, en somme? Primo, que les vieux reçoivent une augmentation. On doit également élargir le personnel auquel s'applique la loi et y incorporer les artisans et les petits commerçants. Et enfin, donner les avantages complémentaires qui consisteraient par exemple en délivrance de billets gratuits de chemin de fer ou en allocation de denrées et contingentes.
La série documentaire Ciel, ma retraite. Deuxième épisode, où est passée ma retraite? Une plongée dans l'épaisseur des archives sonores de l'INA. Franck Lilin, Nedjma Bouakra.
Eh bien, au sixième étage d'un immeuble de la rue Trébois, à Levallois-Perret, nous avons trouvé Mademoiselle Lecouet. Mademoiselle Lecouet, puis-je me permettre de vous demander votre âge?
Monsieur, je vais avoir 83 ans le 22 septembre prochain.
Eh bien, je voudrais maintenant que nous jetions un petit coup d'œil sur votre carnet de dépenses. Si vous voulez, on va prendre un jour au hasard. Nous sommes pour le moment au mois de mai. Bah, on va prendre, par exemple, le jeudi 4 mai. Alors, vous avez ce jour-là acheté...
Biscotte, 110 francs. Ça dure au moins 8-10 jours.
Oui.
Pain, 19 francs. C'est la ration de tous les jours. 19 francs de pain. C'est
oui.
Ce que j'achète tous les jours. Les 46, c'est tous les jours.
Oui.
S'il m'en reste un petit peu, ça me sert le lendemain. Mais enfin, c'est 46 francs tous les jours de lait. Viande, en général, c'est, je ne dépense pas plus dans la semaine de 50 francs par jour. J'achète 100 grammes de cheval haché. Et c'est 50 francs ces temps-ci, mais il y a encore 10 jours, c'était 42 francs. Et pommes de terre, 85 francs. C'était les nouvelles, c'était un luxe.
C'est-à-dire que vous avez dépensé ce jour-là 300 francs, c'est-à-dire pas très loin de la totalité de
voilà,
ce que vous avez
soir,
par jour.
Je mange un café au lait, ou un thé, ou un chocolat, que j'ai souvent, gracieusement, encore, j'en ai encore.
Eh bien, mademoiselle, je vous remercie, et je vous souhaite de vivre encore longtemps.
Oh, je vous ai bien gentil, mais je n'y tiens pas, sincèrement.
Nous sommes en 1961. Depuis 5 ans, Madame Lecouet reçoit la toute nouvelle allocation supplémentaire de solidarité, un minimum vieillesse. Madame Lecouet a tenu un magasin de mode dans les années 30. Elle vivait déjà chichement avant que le grand âge ne la surprenne. Entre 1930 et 1945, une partie des salariés seulement ont pu faire valider leurs droits, tandis que les autres n'auront pas les durées de cotisation requises pour profiter de leur retraite. La guerre et l'occupation ont porté des coups terribles à de nombreux foyers. L'économie française, déjà affaiblie par la crise de 1930, au sortir de la guerre, est exsangue. La récolte de blé est divisée par deux. Le ministre, Henri Tetteguin, fait face à la pénurie alimentaire. Il s'adresse aux paysans de France en 1947. « La France vous demande de livrer tout le blé que vous avez. Ne ruinez pas votre pays. » Les paysans sont pointés du doigt, mais aussi les commerçants. La possession d'un stock de marchandises assure un profit certain. L'épicier, le boucher, le boulanger règnent sur le cœur névralgique de l'économie quotidienne de leur quartier. Mohamed Rouabi est pour nous la voix d'un homme de son époque, un commerçant que nous avons baptisé Joseph Martin. Nous l'imaginons rejoindre la marche fracassante de la révolte des contribuables de Pierre Poujade, puis celle 20 ans plus tard du mouvement de révolte des commerçants et artisans, le CID.
Le principe politique de baisse déclenchée par le gouvernement a déjà enregistré certains succès.
1948.
Ainsi, la création des magasins témoins et la mise en vente des porcs provenant des contrats d'engraissement ont provoqué une baisse sensible sur la charcuterie et par incidence sur la viande en général. Appuyant l'effort du gouvernement, voici que le public se met de la partie. Sur certains marchés, les consommateurs transformés en contrôleurs bénévoles relèvent pour les afficher les prix les plus bas et l'adresse du bon marchand. Réflexe immédiat, les autres commerçants se mettent au diapason pour n'être pas boycottés. Deux efforts conjugués et espérons-le un résultat durable.
Non mais, depuis quand le gouvernement décide des prix ? Offensive du gouvernement contre les profiteurs et pour le beefsteak moins cher. Aux actualités, c'est comme ça qu'ils parlent des petits commerçants. Les commerçants au détail, des halles aux marchands de poissons, tous doivent afficher côte à côte prix d'achat et prix de vente, indiquer ainsi la marge de leurs bénéfices. Sans oublier la baisse obligatoire des prix de 5%. Merci, l'État-providence, tu prends à Joseph pour donner à Jean. Nous, on a déjà fait, sans en faire tout un plat, des prix spéciaux économiquement faibles. Alors pourquoi l'État s'en mêle ? Ils vendent de la viande sur des éventaires volants, pour donner l'exemple, et les policiers vérifient les prix au risque de la saisie. Non mais messieurs, est-ce que je regarde sous votre matelas, votre épargne ? Parce que quand on est commerçant, on apprend cela de père en fils, le bas de laine. Il faut tenir, inflation ou pas, sur la longue durée. On change pas de commerce comme on change de chemise. Moi, je m'appelle Joseph Robert. Et si je pense à ma retraite, je pense que les salariés sont bien mieux lotis que nous. Oui, on veut pas rejoindre le régime général. On préfère des caisses autonomes de prévoyance qui nous reverseront pas plus que ce qu'on leur donne, c'est-à-dire pas grand-chose. La retraite des commerçants, c'est quasi rien. C'est vivre ses vieux jours au-dessus de la boutique, ou la transmettre à ses enfants, ou la vendre, ou pire, la liquidation. Si les temps sont mauvais, je préfère compter sur ce que j'ai.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1948. Aide aux vieux travailleurs. Le journaliste Paul Louis.
Mais de quoi vivent les vieux, en somme ? Ils vivent de pommes de terre, de carottes, de navets, de choux-fleurs, de vin, de bière, etc.
Bien qu'on n'ait pas de chiffres très précis en ce qui concerne le nombre des vieillards sous-alimentés, on peut dire que la question intéresse, chez nous, au moins 5 millions de personnes. Ces 5 millions de personnes peuvent être réparties en un certain nombre de catégories. Il y a d'abord les ouvriers qui ont pu cotiser pendant quelques années, car la loi ne fonctionne que depuis 18 ans, et beaucoup d'ouvriers avaient déjà 60 ans, ou 55, ou 62, au moment où la loi est entrée en vigueur. Il y a ceux qui n'ont pas cotisé parce qu'ils étaient trop âgés. Il y a des catégories qui ont été éliminées de la loi au moment où elle a été faite. Je pense aux artisans et aux petits commerçants. Il y a enfin les petits rentiers qui avaient cru se constituer par leur épargne des ressources d'avenir et qui n'ont trouvé que des ressources non seulement incertaines, mais minimes, puisque le franc a été dévalué plusieurs fois. Et les ressources qu'ils ont pu se constituer aujourd'hui ne suffisent souvent pas à l'alimentation la plus modeste. Ce que nous savons, c'est que le franc d'aujourd'hui, si l'on tient compte de la dévaluation et de l'augmentation du prix des denrées, représente à peu près un centième de ce qu'il a, un peu plus d'un centième si vous voulez, de ce qu'il était avant 1914. Ici, j'ouvre une parenthèse. La Constitution de 1945, dans son article 33, a prévu que tout homme qui ne pourrait plus travailler, vu son incapacité physique ou vu son âge, aurait droit à des allocations qui lui permettraient de vivre dans des conditions convenables.
À chacun de ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui, je souhaite de célébrer Pâques dans la paix, le bonheur, l'absence de toute préoccupation. Oui, c'est cela. Dans l'absence de toute préoccupation.
Les Français donnent aux Français, Clara Candiani.
J'ai reçu cette semaine une lettre affolée d'un couple de vieillards qui a cru comprendre dans je ne sais quel journal que l'allocation aux économiquement faibles allait être supprimée. Voici ce qu'ils m'écrivent. Alors, qu'allons-nous devenir, nous qui n'avons que ça ? Nous n'avons plus qu'à nous tuer. Mon mari a 80 ans, moi 70 ans. Déjà l'hiver, faute de pouvoir acheter du bois, nous restons couchés. Cette fois-ci, nous ne pourrons plus manger. Alors nous n'avons plus qu'à nous tuer, plus qu'à nous tuer, et nous ne serons pas les seuls.
Je me souviens d'avoir entendu ces émissions à la radio, c'était France Inter à l'époque où je l'entendais.
Michel Pigenet.
Ça durait très très longtemps, hein. C'était une personnalité de la radio chrétienne, hein, et ça se sent en quelque sorte dans l'approche, et donc elle présentait régulièrement des cas. Et elle appelait les auditeurs à venir aider les personnes en question. C'était sans doute utile, mais voilà, elle réglait un problème par jour ou par semaine. Je ne sais plus quelle était la fréquence à l'époque de cette émission.
Je n'ai entendu dire par personne, nulle part, qu'il était question de supprimer l'allocation temporaire aux économiquement faibles. Cette allocation peut être remplacée par une allocation définitive, plus importante au contraire, le jour où le Parlement et les autorités gouvernementales en décideront ainsi. Augmenter. Vous comprenez bien, mes vieux amis à cheveux blancs ? Non pas supprimer, augmenter.
Alors, elle nous dit quand même des choses au passage. Alors, le vocabulaire est un peu confus dans ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'allocation aux économiquement faibles. Il y a des cartes d'économiquement faibles qui permettent d'accéder à certains biens ou à certains services. Mais c'est très, très faible. Il faut savoir que en 1952, les chiffres qu'elle donne font que un vieux qui ne bénéficie que de l'allocation aux vieillards touche 5 fois moins que le salaire minimum. C'est-à-dire, il ne peut pas vivre.
Sans vous, sans votre générosité, il n'y aura pas l'œuvre de Pâques des vieillards cette année. Alors je vous rappelle leur adresse. Les Petits Frères, 9 rue Léchevin, Paris 11e, compte chèque postal Paris 246-398.
Il y a une belle chanson qui date encore de mon père. Pour les malheureux, vous avez en France des maisons de vieillards, mais en vérité, le peuple ouvrier ne veut pas d'assistance, il a son orgueil et sa dignité. Gardez vos aumônes d'assistance publique, donnez-nous la retraite à 55 ans et que ce soit là l'œuvre de la République de donner du pain aux vieux cheveux blancs. Ils me l'ont donné à 58 ans et j'avais 1 800 franciens, hein, 18 000 francs tous les 3 mois. Et les femmes, ils devraient l'avoir à 55 ans, moi, je dis. Voilà.
Entrée en vigueur de la retraite à 60 ans, 1er avril 1983.
Voilà, en 1895 déjà, le droit à la retraite figurait au programme du premier congrès de la CGT.
Elle est sur le registre, non pas de quémander, de demander une aide, cette ancienne ouvrière, et sur le registre du droit. Elle le dit d'ailleurs dans sa chanson, alors qui nous ramène loin, si on calcule bien, parce que elle a 80 et quelques années, c'est en 83, donc elle est née au début du siècle ou à la fin du 19e siècle. Elle se souvient que c'était une chanson que chantait son père, donc ça nous ramène au tournant 19e, 20e siècle. Et ça nous dit aussi que il y a déjà à l'époque une revendication ouvrière de la retraite qui est un droit que l'on réclame, qui est un droit que l'on réclame à la République sociale, qui est le grand thème du mouvement ouvrier à l'époque, c'est-à-dire d'une République qui ne sera pas simplement un système institutionnel, mais qui sera aussi porteur de progrès et porteur d'un projet d'émancipation. Et je trouve la chanson tout à fait émouvante et en même temps, elle résume le mouvement ouvrier. nous avons des droits. On ne demande pas même l'assistance. Hein, on nous le doit. Nous sommes des ayants droit. Voilà. À 55 ans.
En 1962, le montant de la pension est maigre. Il ne représente que 20% du salaire de référence si l'on part à 60 ans et 40% à 65 ans. Ainsi, du fait de la faiblesse du niveau des retraites, la population âgée fait partie des catégories les plus défavorisées. Le rapport Larocque sonne l'alarme. Les 30 glorieuses et la masse d'actifs augmentant, le régime général monte en puissance. Il est temps de redistribuer ce qui a été socialisé.
Et vous arrivez à vivre ?
Ouais. Vous parlez, si j'arrive à vivre, on arrive à vivre comme on peut, vous pensez
oui.
bien. On mange pas de la viande tous les jours.
Est-ce que vous avez autre chose pour vivre ?
Ah bah si j'avais pas mes enfants.
Ce sont vos enfants qui vous aident.
Ah bah forcément.
J'ai demandé ma retraite à 60 ans, savez-vous combien l'on me donne ? 6 650 francs tous les 3 mois.
21 000 tous les 3 mois. Alors avec ça, vous savez, on n'est pas fauché.
Est-ce que vous avez assez pour,
non,
pour vivre ?
Non, je pleure. À la peur,
mais il faut pas pleurer.
Oh non, c'est pas parce que j'ai peur, mais ça me crève le cœur.
Vous travaillez encore ?
Non, malheureusement.
Alors, en 1962, en France, oui. on peut vivre avec 16 000 francs par mois ?
Vivre, c'est pas vivre, c'est végéter.
5 colonnes à la une, 1962. La retraite passe de 9 000 francs à 11 000 francs par mois.
Oui, c'est la triste vérité. Une vérité qu'il faut bien se décider à regarder en face. 3 millions de vieux en France essaient de ne pas mourir de faim. De 9 000 francs, la retraite vient de passer à 11 000. Une aumône à la misère, une insulte à la fierté. C'est pourquoi Saint-Colonne ouvre devant vous ce soir le dossier de la vieillesse, dont les conclusions ont été rendues publiques sous le nom de rapport Larocque. Ce rapport, c'est de la dynamite, car il remet en cause toutes les idées reçues à propos de la vieillesse. La France est en effet, de toutes les grandes nations, celle qui compte la plus forte proportion de vieillards. Et si l'on portait à 15 000 francs la retraite, comme le demande la commission Larocque, c'est une somme de 600 milliards qu'il faudrait dégager, d'où augmentation de la charge fiscale. Faut-il repousser l'âge de la retraite ? Une telle solution est-elle souhaitable, possible, humaine ? À cette question, une première objection.
Professeur Alfred Sauvy, professeur au Collège de France, vous avez effectivement défendu à maintes reprises ces derniers temps la nécessité d'évoluer constamment au cours de l'existence et vous affirmez que la retraite systématique et généralisée est à la fois une absurdité sociale et peut-être même une absurdité morale.
Je crois qu'elle est contraire à l'équilibre physiologique de l'individu et qu'elle est aussi contraire à son niveau économique. Nous sommes dans un pays où le nombre de vieillards augmente chaque année et on ne peut pas ignorer qu'il y a un problème de finances. Et il faut voir les choix tels qu'ils se présentent. On peut assurer un niveau de vie relativement satisfaisant à un nombre limité de personnes, ou bien assurer à un grand nombre de personnes un niveau de vie plus faible. Cette option, les pays socialement avancés l'ont tranchée. La Suède, le Danemark, qui ont étudié depuis bien plus longtemps le problème de la vieillesse que nous, donnent la retraite, la pension, suivant le cas, à 67 ans, et elle est à peu près double de celle que donne le gouvernement français.
Un homme qui a travaillé comme moi, par exemple, je cite mon cas, ça fait 52 ans d'étau, vous vous rendez compte que tout de même, j'aurais tout de même droit à un peu de repos.
Comme justement la vie mérite d'être vécue, il faut quand même donner à l'individu une certaine marge quand même de vie libre.
Et dans toutes les professions, c'est pareil, chez les manuels comme chez les intellectuels.
Cette retraite, vous l'avez prise avec plaisir ou est-ce que vous auriez...
Oh, bien sûr, j'ai prise avec plaisir, j'ai même prise avec anticipation.
S'il si la donne à 65 ans, ça fait trop vieux. Tout le monde n'arrive pas à en profiter de la retraite.
La retraite pour les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans.
Or, il se trouve que beaucoup de personnes penchent vers un départ rapide des personnes âgées parce qu'elles ont peur de ne pas trouver d'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas de préjugés plus ancrés dans la population et qui résistent moins à l'examen. L'emploi n'est pas du tout une donnée limitée, comme on le croit, quand on voit une administration. L'emploi est une donnée extrêmement élastique. Et si l'on veut donner des emplois à tout le monde, il suffit d'agrandir la France, d'agrandir l'économie française et ne pas penser à se répartir quelque chose qui sera une répartition de misère. Et c'est pourquoi on peut envisager que les personnes âgées ne doivent pas être exclus brutalement de la société. parce que, je le répète, il y a en France du travail pour tout le monde et il pourrait y en avoir pour 3 ou 4 millions de personnes en plus, très facilement.
Un homme de 57 ans est mort de faim parce qu'aucun employeur n'a voulu lui donner du travail, le jugeant trop âgé.
Clara Candiani.
Père de 6 enfants et ne voulant pas être à leur charge, ce courageux travailleur, réduit au chômage, a préféré mourir de faim plutôt que de mendier. Oui, ce chômeur de 57 ans, on en parle beaucoup, beaucoup maintenant. Il fait figure d'homme sandwich de la misère des travailleurs sans travail de plus de 40 ans. Et puis, que va-t-on faire après ? Quel est le député, quel est le ministre, quel est l'homme, enfin, digne de ce nom, qui se préoccupera de ce problème des Français qui n'ont droit à la retraite des vieux travailleurs qu'à partir de 65 ans, mais qui n'ont plus droit à trouver du travail à partir de 40 ans, et n'ont qu'à crever de faim en silence et en rasant les murs des offices de placement, jusqu'à 65 ans, âge où de nouveau ils ont droit à vivre.
La sécurité sociale est un organisme difficile à définir, ni public ni privé. C'est l'État qui fixe l'âge de la retraite. Parenthèse, en 45-46, l'âge de la retraite, on le fait passer de 60 à 65 ans. Alors, c'est que le calcul de la retraite, auparavant, c'était 40% de la moyenne du salaire de toute sa vie professionnelle. En 45, on décide que ce sera 40%, la proportion est la même, mais des 10 dernières années de sa vie professionnelle. Pas sûr que ça avantage les ouvriers. Souvent, ils voient leur salaire décliner dans les 10 dernières années. C'est pour ça qu'en 1971, on passera aux 10 meilleures années, ce qui sera plus juste. Donc, en contrepartie de ce calcul, eh ben, on augmente l'âge auquel on peut en bénéficier. Pour les vieux, ça laisse à désirer.
L'humanisation de la sécurité sociale, une enquête in situ de 1965.
Écoutez d'abord un dialogue enregistré dans une camionnette de la sécurité sociale, aménagée, très bien aménagée du reste, en centre d'accueil ambulant.
Vous avez déposé un dossier relatif à une retraite vieillesse.
Oui, monsieur. Ça fait depuis le mois de mai. Pour mon mari, qui va avoir 66 ans le 1er avril.
C'est long, ces règlements-là.
Ah, bah oui, monsieur. Ça fait déjà 9 mois. Alors, mon mari a un patron qui a bien voulu le garder. Sinon, on a été, par le fait, expulsé. La petite maison où se trouve le parking maintenant. Alors mon mari va avoir 66 et moi 63.
Si je comprends bien, vous attendez pour déménager la liquidation de la pension.
J'ai fourni mes bulletins de paye depuis 1946 jusqu'au jour de ma demande.
Vous avez mis longtemps à constituer le dossier, vous avez eu de la peine à le faire?
Ben, c'est-à-dire j'ai été trouver la dame à Mantes, oui, au bureau des vieillères, des retraites.
Technicien de la caisserie.
Oui, alors elle m'a rempli mes papiers, puis elle m'a donné la marche à suivre.
Voilà.
Alors ça a été transmis à Paris, et de Paris on m'a demandé de fournir tous mes certificats, mes bons de paye. Alors comme je les avais...
Bon de paye depuis quelle date?
Depuis 1946.
Donc c'est très important de les garder.
J'ai envoyé tout en recommandé. D'ailleurs, j'ai tous mes papiers. Oui, oui.
Non, la
oui.
demande a été enregistrée.
Oui.
Elle a été enregistrée du 22 oui. avril 64. Et j'ai transmis, je vous dis, votre réclamation.
Oui, oui, monsieur.
La
oui.
La vieillesse, qui elle va faire des recherches, enfin, va,
oui.
va activer
pour
la liquidation
activer
de cette
un petit
pension,
peu.
Hein.
Oui.
La question régionale de la vieillesse ne vous a pas renvoyé votre demande en vous demandant des renseignements complémentaires, des bulletins de salaire qui manquaient ou.
Ah non, ou, non, 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 monsieur, non.
Ça a été constitué directement et puis depuis, vous n'avez pas de nouvelles.
Vous voyez ce qu'on m'a remis, une carte.
Oui, oui. Alors, ça c'est l'accusé de réception
oui,
de déclaration.
Oui, c'est ça.
Pour les bénéficiaires, les ayants droit à la retraite, est-ce que c'est compliqué d'arriver à faire sa fiche de calcul? Est-ce qu'on se tire les cheveux en disant « ciel ma retraite » ou est-ce qu'on peut faire son calcul assez simplement au cœur des années 60-70?
Je pense que c'est relativement simple, hein, parce que...
Nicolas Castel.
Vous avez un niveau d'éducation qui a augmenté, et puis les gens savent faire une multiplication, une addition. Il faut qu'ils repèrent un niveau de salaire, le salaire de référence, qu'ils multiplient par un taux, ça peut être 0,5, 0,2, 0,25, et puis qu'ils multiplient enfin par 1, c'est-à-dire s'ils ont la totalité de leur trimestre, ça fait, je ne sais plus, 120 sur 120 ou 150 sur 150, ce qui fait 1. Voilà. Donc,
un bon boulier, une bonne table de multiplication, et c'est possible.
Oui, je pense. La difficulté, elle est en fait sur comment on reconstitue sa carrière, c'est-à-dire comment on prouve que vous avez bien 120 ou 150 trimestres, puisque vous êtes sur des générations qui pouvaient payer en monnaie, en liquide, et qui n'ont pas toujours leur bulletin de salaire. Donc, ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont bien reçu les salaires, qu'ils ont bien validé la carrière qu'ils sont censés valider. Enfin, j'ai un exemple de petite fiche qu'a utilisée, bon, il se trouve que c'est mon arrière-grand-tante, et je vais vous les lire. Elle doit prouver qu'elle a travaillé un certain nombre d'années pour avoir une carrière complète. Donc, je vous lis, elle a ce petit papier qui date de 1951, c'est sur un menu, le menu du jour, et il est dit ça, donc c'est restaurant Roussy, je sous-signé Roussy Eugène, restaurateur du 62 boulevard Beaumarchais, Paris 11e, certifie avoir employé en qualité de dame de salle Madame Germaine Augagneur du 19 novembre 1945 au 28 août 1951. Partie libre de tout engagement, fait à Paris le 29 août 1951. Et puis j'en ai une deuxième, tout aussi courte. Je reconnais avoir eu à mon service, comme fille de salle, Madame Germaine Augagneur du 1er juillet 1952 au 30 novembre 1954. Je n'ai qu'à me louer, alors c'est plein de fautes d'orthographe, hein, je n'ai qu'à me louer entièrement de ses services et de son honnêteté, fait à Paris le 30 octobre 1954, le gérant, Monsieur Caglia. Alors, ces deux papiers que vous avez là, ils témoignent de quoi? Eh bien, ils témoignent du fait qu'elle a travaillé sur une période de 9 ans, qu'elle a travaillé 8 ans. Eh bien, là, elle a une déclaration qui fait qu'elle a validé 32 trimestres au titre de ce qu'on appelle la reconstruction de carrière.
L'extension des droits à toutes et tous bute sur les difficultés inhérentes aux carrières en gruyère. Mais la sécurité sociale est encore un bien commun. Calculer sa retraite est à la portée de tous. Les administrateurs, les représentants des salariés y veillent. Mais la sécurité sociale est aussi un trésor, une manne, un budget représentant jusqu'à 3 fois celui de l'État. Et ce contrefort tremble. 17 mai 1967, à Paris, la grève générale.
Répondant à l'appel de leur syndicat, un grand nombre de travailleurs parisiens ont défilé de la place de la Bastille à la place de la République. Groupés par localité, par profession ou par entreprise, ils ont proclamé leur inquiétude devant le projet de loi autorisant le gouvernement à user des pouvoirs spéciaux en matière économique et sociale, projet qui, devant un hémicycle au grand complet, a été longuement discuté par l'Assemblée nationale.
C'est le casse du siècle, celui de la Sécu. Je me souviens, c'était bien avant que les petits gars du Sidunati comme moi, des commerçants et artisans, ne fassent brûler les petits papiers des caisses d'assurance ou occupent les caisses de sécu. Ça, c'est de la rigolade à côté. Tout le monde parle de 68, mais 67. Ah, le beau mai 1967. C'est Pompidou qui décide par ordonnance de prendre le magot de la sécu et de le redistribuer en se passant des hommes en place. C'est ça, de faire confiance à l'État. Ils disent vouloir des hommes responsables pour calmer les ardeurs des administrateurs ouvriers. Les gros patrons, le CNPF, ils veulent pas de ce régime tentaculaire, un État dans l'État. Alors, ils divisent risque par risque. Ils balisent de nouveaux périmètres pour mieux intervenir. Et on fait tourner les chaises et hop. Et tout ça, pendant l'été. Ah, les communistes et socialistes, ils en sont tombés de leurs chaises.
L'opposition avait délégué à la tribune ses meilleurs orateurs qui, tour à tour, ont exprimé leurs craintes et leur désapprobation. Le Premier ministre, M. Georges Pompidou, devait répliquer en rappelant que le gouvernement ne sortira pas des strictes limites de la délégation de pouvoir qu'il sollicite pour une durée limitée. Les membres de l'opposition, n'ayant pas réuni le nombre de voix nécessaires sur la motion de censure, le projet de loi a été adopté en première lecture.
Août 1967. Les ordonnances, la sécurité sociale, l'emploi.
Oui, un premier chiffre saute aux yeux. 66% des Français s'estiment insuffisamment informés pour juger des décisions prises par le gouvernement en matière de réforme de la sécurité sociale. Tenant compte de ce premier pourcentage, 50% des Français estiment que ces mêmes arrêtés ne sont pas équitables contre 13% de Français favorables à ces mesures de réforme.
On vous a beaucoup reproché de vous attaquer à la sécurité sociale et même de la démanteler. Quels ont été, M. Jeannet, quels ont été les principes qui ont guidé l'action du gouvernement dans cette importante réforme ?
La démocratie implique la clarté. Et puis la démocratie implique la responsabilité. La clarté, alors ce qu'on certains appellent le démantèlement de la sécurité sociale, c'est tout simplement la volonté que nous avons de faire que chacun puisse voir clairement où va son argent. À quoi il sert. Et pour cela, en effet, nous faisons éclater la Caisse nationale de sécurité sociale qui recevait toutes les cotisations et les redistribuait à tous les risques sans qu'on sache d'aucune manière dans quelle proportion prévue d'avance. Alors nous faisons trois caisses distinctes. Mais faire trois caisses, est-ce que c'est cela, démanteler ou détruire ?
Et qu'est-ce que ça fait ? On va complètement modifié l'organisation de la sécurité sociale. Jusque-là, on avait les allocations familiales et puis une caisse commune à la maladie, à la vieillesse, aux retraites.
Michel Pigenet.
Désormais, on aura trois caisses distinctes qui devront toutes les trois être à l'équilibre, alors qu'autrefois, il pouvait y avoir des compensations. Et donc, allocations familiales, maladie et vieillesse. C'est ce qui existe encore aujourd'hui. Et puis, la gestion de ces caisses primaires, départementales, en gros, pour la plupart des départements, va devenir paritaire, c'est-à-dire à égalité employeur et salarié. Et d'autre part, il n'y aura plus d'élection. Les administrateurs seront nommés par le ministre sur proposition des organisations syndicales. Du coup, les organisations syndicales, et en particulier la CGT, perdent la gestion de la plupart des caisses, puisque on va avoir des coalitions patronales avec des syndicats qui acceptent cela. Le patronat joue sur la division syndicale, qui est quand même très forte à l'époque, notamment du côté de la CFTC. La CFDT a déjà été créée à cette époque-là et la CFDT est alliée à la CGT à ce moment-là, mais la CFTC, Force ouvrière ou la CGC vont former des coalitions majoritaires avec le patronat.
Il suffit qu'il n'y ait qu'un syndicat ?
Oui, bien sûr, puisqu'on est à parité, donc on a le même nombre d'administrateurs. Alors, le syndicat minoritaire en question, il trouve son compte. Puisqu'il était minoritaire du temps des élections et il n'arrivait pas à contrôler des caisses. Là, en contrepartie, il obtient la gestion d'un certain nombre de caisses.
Nous instituons dans la sécurité sociale le paritarisme, parce que cela nous paraît être la condition même d'un accord entre les partenaires sociaux. Voyez-vous, le gouvernement a été très frappé de la réussite que constituent les régimes complémentaires de vieillesse, par exemple. C'est l'aboutissement, ce doit être l'aboutissement de ce que on appelle aussi le dialogue. Eh bien, le paritarisme, c'est la condition du dialogue, nous semble-t-il.
Ils sont condamnés à s'entendre.
C'est cela. J'aime pas beaucoup le mot condamné, mais enfin, votre idée est juste.
Et puis, évidemment, vous avez une équation impossible à l'époque, puisque, quand je dis à l'époque, c'est le quart de siècle qui sépare, disons, on va dire, de la libération. Jusqu'à 25 ans plus tard, c'est qu'en matière de santé, comme en matière de retraite, mais aussi d'éducation, vous avez, on pourrait dire, une nécessaire montée en régime des régimes. En gros, on est dans un contexte où, un contexte de création et d'amélioration des droits qui va s'opérer sur plusieurs décennies. Donc, l'objectif d'une maîtrise, voire même d'une baisse des dépenses sociales, il est déjà dans les têtes, dès les années 50. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous dites mise en marché concurrence européenne, c'est le traité de Rome, en 1957, et peu de gens le savent à l'époque, mais il y en a quand même quelques-uns qui le savent, eh bien vous dites modération salariale. Et Si vous dites modération salariale, eh bien vous dites aussi modération des cotisations sociales. Donc, vous avez des acteurs politiques qui doivent à la fois améliorer des droits et les limiter dans le cadre d'un tout récent marché commun européen. Et c'est là, c'est à partir de là que vous allez avoir, c'est une rengaine, hein. On va présenter les acteurs de la démocratie sociale comme des responsables d'une non-maîtrise des dépenses de prestations sociales. Dépenses qui nécessairement devaient augmenter, pour de bonnes raisons, hein. C'est-à-dire meilleurs droits et meilleure couverture. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que la mort de la démocratie sociale, elle est à l'agenda, en fait. Et finalement, l'acte de décès de cette démocratie sociale, c'est 10 ans après le traité de Rome, c'est 1967.
Après 68, nous, artisans et commerçants, on a compris qu'il fallait battre du poing sur la table. Ne pas rester sur les devantures de nos boutiques, les bras ballants, en attendant la baisse de la patente. En 1970, à Paris, au Parc des Princes, le CID rassemble 40 000 sympathisants venus de toute la France. Et puis, un certain nombre d'entre nous revenaient de la guerre d'Algérie. On a même compté dans les rangs du CID quelques-uns de l'OAS, qui n'avaient franchement peur de personne pour lutter contre la Gestapo fiscale. On a notre porte-parole, un gars formidable, Gérard Nicou, un costaud. À 22 ans, il s'infiltre dans la baraque d'un inspecteur des impôts pour l'intimider avec sa famille. Avec une dizaine de militants, dont je tairai le nom, il fait pression sur le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie de l'industrie des Alpes. Il récidive, il enlève le maire adjoint de Lyon, qui est aussi un directeur de caisse régionale, et sa femme. Sa femme, ça, je n'ai jamais compris pourquoi, mais bon. Un leader charismatique. Après avoir livré la terre des petits paysans aux financiers, des politiciens aux ordres, s'apprête à leur brader la distribution. Voilà ses mots. Et cerise sur le gâteau, Gérard Nicou ordonne l'enlèvement de deux inspecteurs des RG ainsi que le maire gaulliste Raymond Jacquet à la Tour du Pin vers minuit. Moi, j'aime pas la violence. Mais les petites boutiques qui ferment, les artisans qui mettent la clé sous la porte, ça n'a jamais ému personne.
Ce que disent les petits commerçants.
Ces métiers à tisser, qui sont dans cet atelier, sont ici en train de rouiller depuis plusieurs mois. Ils ne tournent plus, c'est le gros problème de tous les artisans de cette région et de beaucoup d'artisans en général. Et c'est votre cas personnel, monsieur.
Oui, l'atelier familial que je faisais marcher n'était plus rentable. Les crises étaient souvent répétées. Les prix de façon baissaient de plus en plus. J'ai préféré trouver une place de salarié que
travailler. Vous travailliez avec qui?
Je travaillais avec deux tantes, ma femme. Mes tantes, il y en a une qui a commencé, qui a eu 65 ans, elle est partie à la retraite. Et l'autre, 5 ans plus tard, est partie. Ça fait que je n'ai pas renouvelé mon personnel et que j'ai continué à travailler avec ma femme pendant 3-4 ans encore.
Qu'est-ce que vous regrettez le plus?
Ce que je regrette le plus... Mais c'est peut-être la liberté qu'on pouvait avoir de travailler chez soi. On était son patron, quoi.
La manifestation organisée par le CID Unati et qui a rassemblé à Rennes plusieurs milliers de personnes se serait déroulée dans le calme si, après un défilé en ville, quelques centaines d'éléments agités ne s'en étaient pas pris à un hypermarché de la périphérie resté ouvert alors que presque tous les magasins de Rennes avaient baissé leurs rideaux. La situation s'est dégradée, les caddies traditionnels chariots des ménagères ont provoqué l'étincelle lorsque les manifestants les ont lancés en direction des forces de l'ordre. Des jets de pierres ont suivi, auxquels ont répondu les premières salves de grenades lacrymogènes. Quelques instants plus tard, une épaisse colonne de fumée se dégageait derrière l'hypermarché. Des manifestants avaient mis le feu dans une réserve de cajots à l'extérieur de l'édifice. Très vite, le feu a pris de l'extension, menaçant la toiture du grand magasin. À leur arrivée, les pompiers ont été très durement accueillis. Leur passage fut difficile et il fallut l'intervention d'un renfort de CRS pour dégager les abords du foyer. Entre-temps, des groupes de manifestants s'en sont pris au matériel d'incendie, coupant les tuyaux avec des couteaux et brisant les vitres des véhicules. Plusieurs pompiers ont été blessés. Alors, en tant que responsable d'un magasin à grande surface, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer ici ?
Donc on a affaire à des bandits ou à des gangsters, c'est tout.
Il n'y a pas d'équipe. Ils sont dégueulasses, les flics.
Alors on est décidé à aller maintenant à la CIRCI, ou alors il faut qu'on soit entendu comme on a été entendu ici, et on ne s'en ira pas de Rennes avant d'avoir trouvé une solution définitive à nos retraites vieillesse.
Les cotisations qui n'ont pas été payées en 69 et en 70, eh bien ne soient pas payées. Il est inutile de faire venir des huissiers. Nous ne voulons pas payer ces cotisations-là tant que nous n'avons pas eu des nouveaux conseils d'administration en place.
Alors vous avez décidé de faire justice vous-même en quelque sorte.
Non, pas spécialement la mise à sac, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, des contributions directes de la Tour du Pin.
C'est moi là que vous entendez là. Je reste calme et affirmatif.
Ont été faites sur l'idée de 500 à 600 personnes et non sur l'idée d'une seule personne qui s'appelle Gérard Nicou. Et cette mise à sac a été faite pour la raison que systématiquement les percepteurs retenaient sur les retraites de nos vieux travailleurs, c'est-à-dire des personnes qui touchaient une retraite déjà bien modeste, retenaient systématiquement le montant de leur cotisation.
Quand on est indépendant, on doit payer à la fois les cotisations salariales et patronales. Ça fait beaucoup, c'est une réalité, c'est beaucoup.
Alors oui, ça fait beaucoup quand on doit le faire d'un coup. Quand l'augmentation est progressive sur 50 ans, ça va. Mais quand vous rentrez dans le système et qu'il faut assurer des taux de cotisation qui sont à l'époque, si je dis pas de bêtises, cotisation patronale et salariale, qui sont à l'époque proches de pas loin de 20%, c'est énorme, d'un coup d'un seul. Donc oui, ils vont être très réticents et ils vont être d'autant plus réticents que d'autres stratégies n'ont pas été mises en place. Par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Bah, on aurait pu justement construire un grand régime général dans lequel ils seraient rentrés avec des taux de cotisation vieillesse déplafonnés, parce qu'il faut savoir que les taux de cotisation vieillesse sont plafonnés. Et puis, ces taux de cotisation vieillesse déplafonnés auraient pu participer au financement des retraites des indépendants. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Pourquoi ? Eh bien, parce que dès le départ, dès 1947, la bataille du déplafonnement des cotisations va être perdue du fait de la création de régimes complémentaires pour les cadres. On veut ménager un espace de retraite. Et donc, on va limiter le déploiement du régime général pour les salariés.
Eh bien, M. Robert Boulin est un homme qui tient ses promesses, puisqu'à peine, avoir quitté la tribune du Palais Bourbon, il a sauté dans sa voiture et est arrivé maintenant, depuis quelques secondes, à la maison de la radio.
1972, Robert Boulin.
Je propose d'aligner les cotisations et les prestations sur le régime général de sécurité sociale. Autrement dit, ça répond à l'idée à cotisation égale, prestation égale.
27 ans après l'institution de la sécurité sociale,
27 ans après l'institution de la sécurité sociale, on va avoir, pour les commerçants et les artisans, un régime progressivement identique, puisqu'il commencera évidemment le 1er janvier 73, que l'on garantit naturellement les droits acquis pour le passé, mais que pour l'avenir, on met en place qu'il soit un régime absolument semblable.
Monsieur le ministre, les artisans, vous le savez, ne sont pas très contents parce qu'ils estiment que vous avez aligné leur régime sur le régime général, mais vous ne l'avez pas intégré. Alors pourquoi cette nuance et qu'est-ce que vous pouvez
leur
répondre ?
Écoutez, moi je ne peux pas arriver à comprendre la nuance, parce que ce qu'ils veulent, c'est les mêmes droits que le régime général, ils l'ont. Alors l'intégration, il faudrait quand même demander au régime général s'il est d'accord pour les prendre. Et puis la différence entre l'alignement et l'intégration, je vais vous la dire, elle est très importante. C'est que dans le cas de l'intégration, ce sont les salariés qui paient le déficit. Et enfin, pourquoi faire payer le seul régime général ?
Par le canal du budget.
Non, par le canal du budget, non, par une compensation démographique entre tous les systèmes. Pourquoi le seul régime général? C'est quand même pas une vache à lait, le régime général. Alors l'alignement, c'est la même chose, sauf que c'est l'État qui paie, naturellement, au lieu des salariés. Voilà la différence entre l'alignement et l'intégration, les droits étant les mêmes.
1972, l'avenir des commerçants et artisans. Le journaliste de l'Humanité, Jean Lagadec, interroge Robert Boulin.
Est-ce qu'on peut embrayer tout de suite sur la question qui était traitée par Monsieur le ministre?
Embrayer.
Monsieur Boulin vient de dire « Je suis pour le suffrage universel, je suis pour des élections ». Vous êtes, à vous entendre, effectivement, pour la démocratie, pour la concertation, etc.
C'est pas vrai.
Avant 1967, Monsieur le ministre, les assurés sociaux élisaient effectivement leurs représentants au conseil d'administration de la sécurité sociale. Vous avez, en ce qui vous concerne, réduit d'un quart la représentation des salariés au profit des patrons, bien entendu, mais vous avez enlevé aux assurés sociaux le droit d'élire leurs représentants. Pourquoi donc avez-vous peur à ce point des élus des assurés sociaux? Pensez-vous qu'il soit possible de faire prendre longtemps encore de telles pratiques pour de la démocratie? Et vous êtes partisan des élections, dites-vous, alors il faut l'appliquer partout.
Aucun gouvernement ne peut ignorer le poids électoral des classes moyennes indépendantes, n'est-ce pas? Et les élections législatives de 73 s'approchent. Les mesures ont été prises juste à point. Relèvement des allocations minimales et augmentation générale des pensions. Mais pas de là à freiner la paupérisation des indépendants. Enfin, nous étions représentés dans les ministères. Mais à Paris, la pauvreté des vieux et vieilles dans les rues, elle crève le cœur. Dans la presse, on parle du troisième âge, celui qui commence après les amours et les enfants, les carrières et les ambitions. J'ai croisé une concierge là, sur un banc à 88 ans. 50 ans pour le même immeuble, à monter et descendre les étages. Et puis aujourd'hui, au rez-de-chaussée de la rue, sans toit, sur un banc public. Quand je n'ai plus pu lire les noms des locataires sur les lettres, elle m'a dit, j'ai abandonné. Et combien sont-elles?
Madame Louise habite Paris, dans un vieil immeuble, à quelques pas de la tour Eiffel. Elle vit dans une seule pièce, qui lui sert à la fois de cuisine et de chambre à coucher. Elle nous a ouvert son cœur, ainsi que ses livres de comptes.
1970, 24 heures sur la 2.
Où êtes-vous née, Madame Louise?
Dans les Ardennes.
Et en quelle année?
21 janvier 93.
Ce qui vous fait quel âge, alors?
77 ans et demi. En 20, mes parents sont venus habiter Paris. Et moi, je me suis placée.
À Paris?
À Paris, oui. Et alors, je suis devenue concierge. Et depuis 35, je suis là. Je vais quelquefois faire une vaisselle d'un côté ou de l'autre pour... on me donnera une bricole quelconque de façon à ce que... Parce que je vais chez des personnes qui ne sont pas riches. Alors... Parce que malgré tout, il faut compter qu'avec l'électricité... Le loyer, les assurances incendie, la télévision, et puis beaucoup de choses, je n'ai plus que 500 francs pour manger.
Et c'est assez?
Ben non, c'est pas suffisant, naturellement.
Vous arrivez à joindre les deux bouts, non?
Ben difficilement. Et comment difficilement.
Comment vous faites pour les joindre?
Ben... D'un côté ou de l'autre, c'est l'un ou l'autre qui me donnera quelque chose d'une façon ou d'une autre pour y arriver. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien y arriver. Faut y arriver. On mangera moins un jour ou l'autre, puis c'est de la tout.
La sécurité sociale, 7 francs par jour. Lecture de La vieillesse de Simone de Beauvoir. Juillet 1970.
Malheureux, anxieux, repliés sur eux-mêmes, les vieillards hospitalisés sont parqués, sans qu'aucune vie sociale soit organisée pour eux. L'argent de poche qu'ils gagnent par de petits travaux, 25 francs par mois, est souvent entièrement consacré à la boisson. Les réfectoires, ordinairement meublés de grandes tables et de bancs, tiennent trop souvent lieu de salles de séjour. Ce qui semble monstrueux, c'est l'abandon moral dans lequel l'administration laisse ses gens. Dans les dortoirs, les malades restent couchés une grande partie de la journée. Il n'y a pas de paravent entre les lits, pas d'armoires individuelles. Le vieillard n'a pas un pouce d'espace à soi. On isole les sexes et les vieux ménages sont impitoyablement brisés.
Peu à peu, les résidences-services, foyers-logements, remplacent les hospices. Le rapport Larocque a, dès 1962, sonné l'alarme quant à la grande précarité des personnes âgées. Ses recommandations, mieux intégrer les personnes âgées dans la vie sociale, notamment en leur donnant la possibilité de rester chez elles avec du personnel formé comme aide à domicile. Mais la pauvreté et l'isolement, dans le grand âge, perdurent. C'est que la société des Trente Glorieuses, tout en aménagement du territoire, regarde vers l'avenir, le progrès, la jeunesse et l'Europe. Ainsi, le 21 avril 1972, le président Georges Pompidou invite les Français à accepter par référendum l'élargissement de la communauté économique européenne. Le très populaire Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, centriste et libéral, cède la place au très discipliné et fidèle gaulliste Pierre Messmer.
Pour le reste, il s'agissait d'un dimanche très politique pour le Premier ministre qui a passé la journée à l'hôtel Matignon à étudier les dossiers qui lui avaient été préparés par son prédécesseur, mais aussi du côté de la gauche pour le Parti communiste et pour le Parti socialiste qui ont réuni conférences et conventions nationales, l'un et l'autre à Paris.
27 juin 1972. Accord entre communistes et socialistes sur le programme commun de gouvernement.
Pour l'une comme pour l'autre organisation de gauche, il s'agissait de faire adopter par la base l'accord sur un programme commun de gouvernement. Chez les communistes, il n'y a pas eu de problème, Henri Pajot.
C'est pourquoi, dans son allocution de clôture, M. Georges Marchais s'est adressé plus particulièrement aux amis de M. Mitterrand.
Camarades socialistes, vous avez vos idées, vos traditions, votre organisation. Nous, nous avons les nôtres. Mais nous avons désormais, vous et nous, un programme commun. Nous vous proposons, dans le respect de la personnalité de chacun et dans la loyauté réciproque, de réaliser sur toutes les questions vitales qui préoccupent tant les masses laborieuses, l'action commune de nos partis.
30 juin 1972, réunion du comité central du Parti communiste après l'accord sur le programme commun.
Chez les communistes, au PC, place du colonel Fabien, Suzanne Gauthier, il y avait aussi réunion.
Là, c'est Henri Pajot.
C'est Henri Pajot, pardon.
Oui, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que le comité central du Parti communiste a approuvé à l'unanimité les termes du programme commun établi avec le Parti socialiste. Bien sûr, a dit Georges Marchais, toutes les mesures contenues dans le propre programme du Parti communiste ne figurent pas dans cet accord, mais il ne contient aucune disposition qui soit en contradiction avec lui.
Le programme commun donne la priorité aux mesures sociales. Plus qu'une priorité, c'est même l'objectif central de ce programme que de permettre aux Français, comme nous le disons, de vivre mieux, de changer la vie.
Ce programme va être transmis maintenant à la conférence nationale du parti qui se tiendra le 9 juillet prochain. Après cette déclaration, des questions ont été posées à M. Marchais. J'ai notamment fait état des déclarations que M. François Mitterrand vient de faire à Vienne devant le congrès de l'Internationale socialiste. Monsieur Mitterrand a dit, vous l'avez rappelé, mon objectif fondamental est de refaire un grand parti socialiste sur le terrain occupé par le Parti communiste. La raison de l'accord, a-t-il précisé, c'est de récupérer 3 millions d'électeurs sur les 5 qui votent communiste. Voilà la réponse de monsieur Marchais.
Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Nous avons conclu un programme de gouvernement, un programme commun de gouvernement avec le Parti socialiste, avec l'objectif de battre le pouvoir actuel des grands monopoles, d'instaurer un régime nouveau de démocratie avancée ouvrant la voie au socialisme et permettant de mettre en œuvre une politique conforme aux intérêts des travailleurs, du peuple et de la nation. C'est pour cette raison que nous avons toujours travaillé à l'Union et que nous avons conclu un programme commun de gouvernement. Que François Mitterrand ait le souci de renforcer le Parti socialiste, je le comprends fort bien, car nous avons précisément aussi l'ambition de renforcer sans cesse l'influence du Parti communiste français.
Le programme commun, le député communiste, Guy Ansart, 1973.
Nous avons réclamé pendant longtemps, par l'intermédiaire de nos parlementaires à l'Assemblée nationale, une augmentation de votre retraite. On nous a dit que c'est impossible. On a demandé qu'on ramène la retraite à 60 ans pour les ouvriers, à 55 ans pour les femmes et pour les travaux pénibles. Par exemple, ceux qui, comme vous, ont travaillé dans la sidérurgie, on nous a dit que ce n'est pas possible. Et puis il a suffi que l'on sorte le programme commun, qu'on le discute parmi les masses de travailleurs de notre pays, et d'un seul coup, M. Mesmer dit « Je pourrais accorder, dans des délais maintenant relativement brefs, la retraite à 60 ans. » Ce que vous réclamez, ce sont vos droits. J'ai lu l'autre jour qu'une association de handicapés avait pris pour mot d'ordre « ni aumône, ni pitié ». Je suis complètement d'accord. Et ça s'applique parfaitement à vous, ni aumône, ni pitié. Quand on a travaillé ici, on peut additionner vos années de travail, plusieurs siècles, pour un même patron, après avoir assuré sa fortune, le développement de ses entreprises. Je dirais même que chacun d'eux a peut-être payé les études de chacun des enfants par votre seul travail. On n'a pas besoin d'assistance, on réclame ses droits, vos droits.
Je crois que tout le monde a compris, hein. Celui qui n'a pas compris, bah, je sais pas, on comprendra jamais, comme je vous dis, hein. Hein? C'est vrai. Il a fallu longtemps pour comprendre, hein.
Puis les travailleurs doivent être contents de l'unité, non?
Mais nom de Dieu, celui qui ne serait pas content, je sais vraiment qu'il aura un seul caractère. Ouais. On en a jusqu'au-dessus, alors tout le monde a compris maintenant, hein. Du moins une grande partie. Grande partie. Vous pouvez croire que dans le parti ouvrier, vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont jamais, pour une raison, faut parler franc, parce qu'ils ne sont pas communistes, ils ne veulent pas voter communiste. Mais ils ont vu qu'en votant de l'autre côté, ils n'ont pas eu d'avantage. Alors, on pourrait pour une fois essayer pour voir comment ça ira après, hein. Ce ne sera pas mal.
Merci à Michel Pigenet, Michel Margaraz, Tanguy Perron et Nicolas Castel. Lecture, Mohamed Rouabi. Prise de son, Christophe Michou, Julien Douminc. Mixage, Valentin Azan. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Ciel, ma retraite, une série documentaire de Nejma Bouakra. Réalisée par Franck Lilin. À suivre, bienvenue à la retraite.